Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline.
Hello à tous, ici Pauline Aignot et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leur philosophie même, et mon objectif, vous l'aurez compris, c'est de vous aider à progresser via l'aide de ces mentors virtuels à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, je suis avec Julie Pelet, qui est directrice du développement de la marque Instagram en Europe du Sud. Ça faisait un moment que Julie et moi, on devait faire cette interview. Pour des raisons d'agenda, on a mis un peu de temps à se caler, mais je ne regrette pas du tout d'avoir autant attendu tout ce temps parce que Julie nous a fait un très beau cadeau en acceptant cette invitation. On a tout d'abord parlé de son parcours et de comment elle était arrivée chez Facebook en 2010, à l'époque où Instagram existait à peine et Facebook, rappelons-nous, mettait seulement en place ses premières publicités. Il y a si peu de temps, et pourtant, quand on y pense, d'un point de vue du monde du web, c'était vraiment mais une autre ère, un autre monde. Donc on a pas mal parlé de ça, et au-delà de la personnalité très attachante de Julie, j'ai retenu une volonté de faire, l'envie de ne pas en démordre, même face à la difficulté. Alors qu'elle n'était pas franchement en pole position pour avoir ce job tant convoité chez Facebook, Julie vous en parlera, elle a tout fait, tout ce qui était humainement possible pour arriver à ses fins. Et y est d'ailleurs arrivée la preuve, comme quoi un bel exemple en tout cas à suivre pour ceux qui cherchent à se faire recruter dans la boîte de leurs rêves. Mais avec Julie, on a également parlé d'autres choses, de choses beaucoup plus concrètes, puisqu'elle a accepté de se prêter à un jeu plus technique en répondant à mes nombreuses questions sur le formidable outil qu'est Instagram. Un outil qui fascine, qui attire, qui suscite les fantasmes, et j'ai voulu avec Julie battre en brèche un certain nombre de croyances ou de faux-semblants, tout en vous donnant des clés concrètes pour l'utilisation de ce réseau, comme par exemple comment faire grandir sa communauté avec peu de budget, la gestion des hashtags, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ou pas d'en avoir, quelles bonnes pratiques pour émerger sur Instagram, comment susciter l'engagement, l'intérêt de la notion de communauté aussi, une notion vous verrez qui est absolument clé et parfois sous-estimée, les indicateurs à suivre pour monitorer les performances de ces campagnes, et de nombreuses autres questions pratico-pratiques s'il en est sur l'utilisation de ce réseau social qui est devenu une vraie vitrine pour de nombreuses marques. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Julie Pelet. Salut Julie et bienvenue sur le Gratin.
Salut Pauline.
Merci de m'accueillir dans ce magnifique lieu chez Instagram. Écoute, je propose qu'on fasse une interview en deux temps. J'avais très envie de parler de ton parcours évidemment, de parler de là où t'en es, tes missions chez Instagram. C'est quand même une boîte qui fascine le monde entier.
Beaucoup de personnes.
Voilà. Et au-delà de ça, tu sais que dans le Gratin, j'aime bien donner des conseils très pratiques, en fait, à l'audience. Et donc, je te propose dans un second temps qu'on rentre un peu dans le dur et que tu me dises un petit peu comment est-ce qu'on peut roll out une bonne organisation pour bien gérer son compte Instagram.
Je vais faire de mon mieux.
Je suis sûre que tu vas très bien t'en sortir. Écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors, donc, c'est un épisode un peu spécial, mais on va parler de toi dans un premier temps. Est-ce que tu peux m'expliquer qui es-tu, chère Julie,
wow.
Et surtout, de façon un petit peu plus spécifique, est-ce que tu peux m'expliquer quel est aujourd'hui ton rôle et quelles sont tes missions chez Instagram?
C'est une belle question, tu sais, quand tu passes tes entretiens.
Ouais, c'est
qui
ça.
Es-tu, Julie
es-tu
Pelet? Alors, tu vois, ma première réponse que j'avais l'habitude de dire, c'était
horrible.
Que d'abord, je suis une karatéka. Ça m'a toujours sauvé la vie.
Ah, c'est vrai?
Je crois que c'est la réponse qui m'a aidée à réussir en fait à avoir certains mes premiers stages, ça c'est sûr.
Donc t'es vraiment, t'as fait beaucoup de karaté.
C'était ma passion, j'ai fait ça pendant 15 ans de ma vie, à m'entraîner tous les soirs, mes week-ends dédiés à la compétition. Donc c'était, ça, en tout cas sur mon identité, ça a représenté une grosse partie de mon adolescence et de ma construction de moi-même.
Et t'es montée jusqu'à quel niveau?
À 16 ans, j'ai eu ma ceinture noire, donc
mon premier
dan.
Ceinture noire, sans problème.
Voilà. Et après, j'ai fait beaucoup de compètes, niveau national, un tout petit peu, quelques Open à l'international. Malheureusement, d'autres personnes étaient meilleures que moi. Mais oui, j'ai eu une vingtaine de podiums au niveau des championnats de France, Coupe de France.
Ah oui, donc c'est sérieux.
C'était
D'accord. Mais écoute, c'est toi, je découvre et c'est une très belle entrée en matière.
Voilà,
je suis
ravie. Donc, ça, c'était ma première réponse. Ensuite, qui je suis, j'ai eu un parcours assez classique. J'ai fait une école de commerce, Schema. Ça s'appelait CERAM avant, mais maintenant, c'est Schema Business School, qui était plutôt sympa puisque c'est dans le sud de la France. Je me suis fait des... En tout cas, c'était un parcours exceptionnel. Je me suis surtout fait des amis assez incroyables pendant ces trois années en école. J'ai eu l'occasion d'avoir des offres de stage qui étaient plutôt cool, puisque j'ai bossé pour Nike France sur la partie Nike Women. Donc, pour moi, c'était une suite un petit peu dans le sport. Et c'était une des ambitions que j'avais au départ, c'était d'avoir rentré dans le sport marketing. J'ai eu aussi le parcours en agence, puisque je suis allée chez McCann Erickson pour le compte L'Oréal Paris. Donc, de voir aussi ce que c'est l'autre côté de travailler pour une agence. Puis après, je me suis un peu baladée à l'international, avoir quelques stages à l'international. Et j'ai fini mon école de commerce en ayant un échange universitaire à Hong Kong. Incroyable. 6 mois à Hong Kong. Malheureusement, mon frère a eu un très grave accident de moto à cette époque-là. Et il s'est brisé toute la colonne vertébrale. Oula. Ça a été assez compliqué. Donc, je suis rentrée en urgence. Heureusement, il s'en est sorti. Ça a été compliqué pendant plusieurs années. Mais du coup, ma première expérience, mon premier CDI, ça va paraître peut-être un peu surprenant pour beaucoup de gens ici, mais j'ai travaillé pour Hilti. Et Hilti, si vous ne savez pas ce que c'est une boîte qui vend des outils de construction.
D'accord, donc, sortie assez loin de ta zone de confort.
Je me baladais avec ma jolie C5 rouge à aller vendre des outils de construction
donc
sur des chantiers.
Donc, tu étais sur le terrain.
Ah oui, alors je peux vous dire que d'être sur le terrain, de se lever un matin de décembre quand il neige et d'avoir un... J'avais une zone en fait qui partait de Vienne, qui est en tout de Lyon, qui est là où j'habite, qui allait jusqu'à au-dessus de Saint-Étienne, Lyon, Mâcon. Enfin, c'était une zone énorme. Et se lever le matin pour aller sur des chantiers, pour aller vendre des outils de construction, c'est...
Ça t'apprend la vie à la dure.
Ah, voilà. C'est une très bonne...
École de la vie.
C'est exactement. C'est une très belle école de la vie. Et en fait, il y a deux enseignements ici. C'est le premier... Ça va vraiment dépendre sur qui on tombe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont très bien accueilli. Et peut-être que d'être une femme, à un moment donné, ça peut aider, mais ça peut être aussi très lourd à supporter certaines réflexions. Et de l'autre côté, il y a des gens qui ne voulaient absolument pas me parler en me disant, en fait, t'es une fille, tu n'y connais rien. Donc, alors que, bien entendu, enfin, pas bien entendu, mais j'avais fini première de ma promo dans cette...
Tu avais fait ton travail aussi.
Boîte-là. Il y a des... Il y a des formations, donc on est noté pour être sûr qu'on fasse bien notre boulot. Et en plus, j'étais une des meilleures commerciales de ma région, donc je n'avais rien à me reprocher. Mais déjà, c'est une bonne confrontation à la vie. Et la deuxième chose, ce qui m'a appris beaucoup, c'est que de faire un métier, la boîte Hilti est géniale et les gens qui travaillent là-bas ont été tous incroyables. Mais de se lever le matin en faisant un métier qu'on n'est pas forcément passionné pour, ça permet de remettre en perspective beaucoup de choses et de justement te donner les moyens aussi de changer et d'aller se battre pour un métier qui, en tout cas moi aujourd'hui, dans la vie actuelle...
Te passionne plus.
Il n'y a pas un seul matin, même quand c'est difficile, même quand je suis fatiguée, même en étant malade, il n'y a pas un seul matin que je me dis « Oh non, il faut que j'y aille ». Je suis tellement contente de bosser pour cette boîte, d'être passionnée par ce que je fais, de rencontrer beaucoup de gens. Et ça aussi, je pense que ça fait partie un petit peu du métier et des choses que j'apprécie. Mais ça, c'est une chance. Et d'avoir été confrontée un peu à ces deux situations, de ce que c'est de se lever le matin, quand on n'est pas forcément le plus motivé et d'avoir l'inverse, et ça remet beaucoup de choses en perspective.
Ouais, et puis aussi, comme tu le disais, femme ou pas, à la rigueur, c'est pas la question, mais juste sortir de ta zone de confort en travaillant sur le terrain dans un secteur que tu connaissais initialement pas très très bien et qui te passionne pas. Je peux imaginer que c'était pas évident, que ça fait un peu de corne, qui est pas mal aussi pour l'avenir, parce que maintenant tu sais pourquoi tu fais les choses et pourquoi tu te lèves le matin, quoi.
Exactement. Et tu te bats pour les bonnes choses.
T'as fait ça combien de temps ?
Alors, j'ai fait ça pas très longtemps, 6 mois.
D'accord.
En fait, j'ai commencé au mois de septembre et est arrivée la nouvelle année et je me suis levée le matin. Enfin, il y a certains matins quand même où je me suis levée en pleurant en me disant, mais qu'est-ce que je fais ? Enfin, j'ai pas fait tout ça pour finalement rester dans un job que j'avais accepté parce que l'opportunité et la situation faisaient que j'avais besoin d'un boulot pour rester auprès de ma famille. Mais 4 mois après, je me suis levée comme ça à ce nouvel an et en pleurs en disant « Mais qu'est-ce que je fais ? C'est pas du tout ce que j'avais prévu. » Même si je savais pas trop où est-ce que je voulais aller, mais en tout cas, j'avais pas prévu ça.
Je comprends.
Et en fait, je pense que c'est là où ça m'a mis une bonne claque en me disant « Ok, prends ta vie en main, c'est pas grave. Ça fait que 4 mois que tu travailles, ouais, tu peux faire autre chose. » Et là, j'ai eu la chance d'avoir quelques amis qui travaillaient déjà à Dublin, notamment pour Google, qui m'ont dit « Bah tiens, il y a Facebook qui est en train d'ouvrir la zone France, mais pour bosser depuis Dublin, regarde sur le site. Peut-être qu'il y a des offres d'emploi. » Et là, je me connecte au site Facebook. Donc, tu sais, il y a toujours des petits liens en marquant « carrière ». Donc, je clique sur mon petit lien « carrière ». Et là, je vois une offre pour être justement, enfin, développer le marché français pour Facebook. Voilà, enfin, pour lancer, en fait, si tu veux, tout le côté publicitaire, en fait, enfin, pour lancer l'offre publicitaire sur le marché français.
Sur Facebook, sur Instagram.
Sur Facebook. Non, d'accord. Non, c'est sur Facebook parce qu'on est en 2010, donc sur Facebook. Et donc, je clique sur ce lien, je reçois un email comme quoi, bah oui, on va organiser des interviews, des entretiens. Super. Et là, j'ai une gentille fille qui m'appelle avec un accent anglais, en fait, un accent irlandais. Et donc, moi, à l'époque, si tu veux, je bafouille en anglais, mais je ne suis pas une superstar. Je ne suis d'ailleurs toujours pas une superstar en anglais. Je me débrouille. Mais à l'époque, c'était très compliqué. Et en fait, d'avoir un entretien en anglais, mais avec un accent irlandais, waouh, ça a été compliqué. Donc, j'essaye de m'en sortir en ayant des mots-clés comme Nike, L'Oréal. Alors, j'essaye de raconter mon histoire. Et là, je me dis...
Karaté.
Wow. Ouais, karaté. Là, je me dis, mon entretien est très, très compliqué. Je ne vois pas comment la nana peut me rappeler. Et du coup, il y a un truc qui se passe dans ma tête en disant, attends, j'y vais au bluff. Et en fait, je lui raconte que, ce week-end, je suis en Irlande, je suis à Dublin. Pourquoi elle ne m'organise pas un meeting avec le manager français, en fait, qui fait les entretiens pour que je puisse avoir une chance de m'exprimer en français avec cette personne-là. Et je sens qu'elle n'est pas du tout chaude. Elle est là. Oui, ok. je vais voir. Tu vois, elle essaye de noyer le poisson. Je fais, oh là là. Et là, pendant 3 jours, je la harcèle d'emails en disant, s'il vous plaît, je suis à Dublin, donc laissez-moi au moins venir au bureau. Et en fait, le jeudi après-midi, elle me rappelle, elle m'a dit, ok, je t'ai organisé un entretien avec le manager français vendredi soir. Donc, c'était un jour.
Miracle.
Et là, je fais,
il faut que j'aille à Dublin.
Super, il faut que j'aille à Dublin. Donc, j'achète un billet d'avion, je saute dans un avion qui arrive en retard, mon entretien est annulé.
Oh là là.
Elle a obligé de c'est négocier pour pouvoir
t'arrives
l'organiser
à Dublin
le
et le truc est annulé, t'as fait tout le déplacement exprès.
Il a neigé en fait en France et donc mon avion est retardé et en fait au lieu d'arriver, je sais pas moi, vers 4 heures, j'arrive à 6 heures à l'heure de l'entretien.
C'est incroyable
en fait,
comme histoire.
Et donc je trouve un moyen de rester à Dublin le week-end.
En fait, t'as fait 3 mois à Dublin juste pour faire
cet
entretien.
Ça. Je reste le week-end et finalement ils ont réussi à m'organiser cet entretien le lundi matin à 8 heures et là. Bon, là, j'ai déroulé, j'avais pas le choix, donc j'ai déroulé. Mm-hmm. Et ça s'est hyper bien passé. Et en fait, je suis rentrée chez Facebook en 2010, à ce moment-là.
Tu rentres à quel poste initialement ?
Donc, j'étais commerciale, si tu veux, pour lancer l'offre publicitaire.
D'accord.
Sur le marché français.
Okay.
Donc, vraiment, si tu veux, c'était l'époque où on venait tout juste de commencer à lancer la monétisation de
Facebook.
Facebook,
oui, bien sûr. Je me rappelle parce que nous, on a lancé Gemio en 2011 et à l'époque, Facebook, personne ne faisait de pub. Enfin, c'était hyper naissant.
Et si tu veux, le seul format publicitaire que tu avais à l'époque, c'était un format où tu pouvais soit aimer la page, c'était un like, soit tu pouvais renvoyer du trafic vers un site internet, mais on était aux prémices.
Il y a eu un petit peu d'eau sous les ponts depuis.
Il s'est passé 2-3 choses, mais c'était drôle parce que si tu veux, c'était vraiment une start-up à l'époque. Moi, mes parents, ils disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Enfin, Facebook, tu vas aimer du contenu toute la journée. Enfin, si tu veux, pour eux, c'était invraisemblable de pouvoir aller bosser pour une start-up comme ça. Donc, l'aventure se lance comme ça. 2 ans après, j'ai l'opportunité de postuler pour aller ouvrir les bureaux de Facebook en Asie Pacifique. Donc, ils ont ouvert un bureau à Singapour. Et donc, il fallait lancer toute l'équipe là-bas, tous les process. Et donc, j'ai la chance de pouvoir faire partie de ce projet-là. Donc, incroyable expérience parce que du coup, tu sors aussi un peu de ta zone de confort. Nouveau marché que je ne connaissais pas forcément. Tout à construire, donc hyper sympa. 6 mois après... Je mets en place un projet qui fait que j'ai la chance de pouvoir partir en Australie pour lancer mon équipe en Australie. Donc, je pars là-bas à Sydney.
Donc, tu ouvres des pays.
Ouais.
C'est un peu la spécialité Julie Paulet.
L'office de Sydney existait déjà, mais en tout cas, la partie de mon équipe que je manageais depuis Singapour n'était pas encore en place là-bas. Donc, je suis allée monter l'équipe là-bas. Donc,
Et toi, ton rôle à chaque fois, c'était vraiment de il y avait une équipe un peu existante mais petite, et de développer, de commencer à mettre des best practices des autres pays, c'est ça, en place sur ces nouveaux marchés?
Ouais, alors pour Singapour, c'était plus de monter à la fois le bureau, la culture, les process du recrutement, et en même temps de continuer à développer la partie commerciale de Facebook sur cette région-là. Mmh. Donc, notamment, je bossais déjà sur l'Australie, donc je faisais pas mal aller-retour sur l'Australie. Et du coup, en fait, j'ai monté tout un projet pour délocaliser cette partie qui était basée à Singapour et la mettre directement à Sydney. Donc, on est parti à deux, on a remonté tout le projet là-bas. Et là, mon ancien manager de Dublin m'a rappelé pour que je vienne pour venir manager toute l'équipe française de Dublin. Et à l'époque, mon mari actuel, mon mari, mais avec qui je sortais à l'époque, lui était resté à Dublin. Et donc, du coup, c'était
l'opportunité
une magnifique opportunité de rentrer et de retourner à Dublin.
Et quand tu dis manager l'équipe de Français à Dublin, ça veut dire qu'en fait, tu étais basé à Dublin et tous les Français qui travaillaient, en fait, tu étais la personne responsable, c'est ça?
C'est ça.
En fait, pour l'équipe qui gère la France délocalisée à Dublin.
Exactement. En fait, tu as une équipe, en tout cas à l'époque, qui était à Paris pour le marché français, mais tu as aussi une équipe qui est à Dublin. L'équipe de Dublin, en fait, est un espèce de centre d'excellence sur plutôt les boîtes qui sont les digital natives, si tu veux. Donc, toutes les boîtes de e-commerce, toutes les boîtes qui se sont montées il n'y a pas si longtemps, tu as une expertise. Parce qu'en fait, comme tu as énormément de marchés et que c'est souvent des boîtes qui exportent à l'international, du coup, t'as, entre les équipes et entre les marchés, tu as beaucoup de partage. Donc, en fait, c'était un hub pour Facebook qui était basé à Dublin et qui permettait de continuer à manager cette équipe-là. Donc, moi, je suis revenue pour manager cette équipe qui était basée à Dublin. Et en 2016... lancement d'Instagram, en tout cas sur les marchés, parce que bien entendu Instagram est né en 2010, ça a été racheté par Facebook en 2012, mais le temps que, si tu veux, l'équipe se construise, que les solutions et que Instagram évolue, le lancement vraiment d'Instagram sur les marchés s'est fait entre 2015 et 2016. D'accord. Et du coup, moi, je suis arrivée en France en 2016 pour gérer le lancement d'Instagram sur la zone Europe du Sud. Donc, je m'occupe maintenant de la France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et depuis cette année, Israël en plus.
Génial. Félicitations.
Voilà. Merci.
Sympa. Écoute. Et donc, les missions, concrètement, quand tu dis « je m'occupe », est-ce que tu peux m'expliquer peut-être quels sont vos enjeux, quelles sont les problématiques? Toi, ton focus au jour le jour, c'est quoi actuellement dans ton job?
Alors, ma mission, elle a beaucoup évolué depuis les trois dernières années, et notamment parce qu'on a recruté une équipe aussi. Ouais. Donc, c'est super parce qu'aujourd'hui, on est 8. À l'époque, on était 3. Donc c'est canon de voir aussi l'équipe grossir. Enfin,
quand tu penses 8, c'est pas énorme quand même. Hein.
Non, c'est pas énorme. Mais c'est déjà mieux que d'être 3. La dernière année, j'ai l'impression qu'on a construit une vraie équipe de talents. Enfin, c'est génial de pouvoir travailler comme ça. Mais moi, mon focus, vraiment, c'est j'ai un gros focus avec les équipes produits qui sont basées aux US et qui développent la plateforme. Et donc, c'est d'écrire un peu la stratégie de lancement de ce qui se passe sur les produits, notamment tout ce qui est à destination du business, de savoir comment on met en place ça sur nos marchés, donc sur la région que je gère. Et mon autre mission, c'est de justement savoir ce qui se passe sur mon marché, de récolter des feedbacks et de pouvoir les faire remonter pour influencer la roadmap produit. Donc, si tu veux, je considère un peu mon rôle comme un rôle maillon sur comment à la fois on part du global et on applique ça au local, mais comment le local
peut influer aussi
le global pour que justement on n'ait pas une stratégie qui soit US-centrique, mais qui soit vraiment représentative de ce qu'est Instagram, puisque aujourd'hui 80% de la communauté est en dehors des États-Unis, donc il faut que aussi tout cela soit représenté.
Et alors concrètement, si on vit sa vie de Julie Pellet, est-ce que tu peux me décrire, et ensuite on va parler aux questions plus pratiques, mais j'aimerais comprendre, donc tu as une équipe de 8 personnes, qu'est-ce que au quotidien, à quoi ressemble ta journée quand on est boss l'une des bosses d'Instagram en France et même en Europe, donc qu'est-ce qu'on fait concrètement au quotidien? Tu te lèves à quelle heure le matin? Tu vas au bureau quand? Et qu'est-ce que tu fais? Ça ressemble à quoi concrètement?
Alors déjà, je veux juste spécifier que les 8 personnes, on a une organisation chez Facebook, c'est pareil, c'est qu'en fait, on est par métier un petit peu. Donc, c'est les 8 personnes qui travaillent pour Instagram ne me reportent pas directement parce que tu vas avoir l'équipe com qui va reporter directement en global com. Donc, mais par contre, on travaille tous ensemble et ça, c'est hyper important de le mentionner parce que je pense que ce qui fait aussi la richesse et notre unité, c'est qu'on n'est pas forcément une boîte qui est hiérarchique. Mais qui justement encourage la méritocratie, le travail en équipe et de pouvoir délivrer des projets justement en ayant des experts sur chacun des domaines qu'on manage. Donc ça, c'est hyper, hyper intéressant. Moi, une journée type, j'ai passé pas mal de temps avec soit mes équipes qui sont aux US, soit mes équipes qui sont au niveau EMEA, qui travaillent vraiment sur toute la stratégie de lancement des solutions qu'on va avoir. Donc, je donne un exemple qui est très concret, mais qui est assez...
Non, mais tant mieux.
Enfin, que tout le monde va connaître, mais quand on a lancé Stories en août 2016, si tu veux, tu as l'ensemble de Stories qui est pour les utilisateurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les utilisateurs? Comment tu fais de l'awareness, mais comment tu fais de la... Je suis désolée pour le franglais, mais la notoriété, en fait, de l'éducation sur le marché pour que les personnes comprennent ce qu'on est en train de faire. Ensuite, c'est de se dire, par rapport aux usages qu'on voit de la communauté, qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises? Pour les entreprises, c'est d'abord une utilisation organique, c'est-à-dire non payante, de comment elles aussi peuvent prendre les meilleures pratiques qu'on voit de la communauté pour se les appliquer aussi, parce que bah, quand tu es une boîte, tu veux faire du storytelling la même manière et que c'est ton moyen aussi de fédérer une communauté autour de ta marque. Et ensuite, moi, ça va être de décrire un petit peu cette strate-là, de quand on a des produits qui se lancent, et ben, comment on fait pour que ça soit le meilleur fit sur le marché, donc que ça passe par soit des conférences, qu'on se synchronise avec l'équipe com justement sur ce qu'on fait ensemble, avec les équipes ici qui vont s'occuper plutôt des marques et qui s'occupent un peu plus du business, et donc comment nos équipes en interne, elles vont parler de nos solutions et comment tout cela peut être reflété auprès de nos annonceurs.
Peut-être avec des agences aussi, j'imagine.
Les
que vous
agences,
avez des
bien
relations.
Entendu, que ce soit créa ou que ce soit des agences publicitaires. Ouais, et pas mal de rencontres aussi avec des marques. Et d'ailleurs, quand je parle de marques, c'est à la fois des entrepreneurs, des TPE, PME et aussi des grands groupes parce qu'on essaye vraiment de développer des solutions qui sont à disposition de tout le monde. Et c'est de n'importe quel type et taille de business. Mais du coup, c'est hyper important que dans la vie réelle, on puisse passer du temps aussi avec eux et de pas seulement faire un focus sur les plus grands groupes, les plus grandes marques ou les plus grands groupes industriels qui sont plutôt des marques internationales.
Donc, être à l'écoute du marché et en même temps évangéliser, éduquer, avoir de la pédagogie et être un peu le chef d'orchestre, entre guillemets, de tout ça en ayant la relation avec les US.
Exactement.
Donc, un petit peu de boulot.
Le business, c'est ça. Mais hyper intéressant parce qu'en fait, je pense que d'ailleurs, toutes nos équipes, c'est pour ça qu'on est peut-être aussi une petite équipe, mais c'est parce qu'on est tous très liés à... une seule et même... les priorités de la boîte sont très claires. Et donc, du coup, je pense qu'on a cette facilité-là à travailler tous ensemble et en fait, à donner une énergie pour pouvoir faire de notre mieux. Et je pense que ça se ressent assez bien, en tout cas, sur le marché français.
Génial. Alors, justement, tu me parlais des priorités de la boîte sans révéler des secrets, évidemment, cachés. Mais bon, il y a quand même aussi pas mal d'infos qui sont dévoilées. Hein, c'est quand même une boîte publique. Est-ce que tu peux me parler des grandes problématiques, des grands enjeux d'Instagram aujourd'hui? Quels sont, alors pour la France spécifiquement, mais quels sont vraiment les gros sujets que vous essayez d'aborder?
Priorité numéro un, et je pense que c'est très bien d'en parler, c'est de construire une plateforme, en tout cas la plateforme la plus bienveillante et la plus sûre au monde. Ça, c'est la priorité numéro un d'Instagram. Et je pense que l'arrivée d'Adam Mosseri l'année dernière en tant que CEO d'Instagram a remis au centre, c'est pas qu'on le faisait pas avant, mais je pense qu'il en a fait une top priorité où ce n'est plus la priorité que de certaines équipes, mais en fait, c'est devenu la priorité de toute l'entreprise. Donc, sur tout ce qu'on développe aujourd'hui, tu vas toujours avoir un pilier qui est, est-ce qu'on respecte les valeurs qu'on s'est mis, est-ce qu'on travaille proactivement pour faire en sorte que cette plateforme elle est bienveillante et bien entendu sur la sécurité de nos utilisateurs. Donc ça, c'est la priorité numéro un. Et en fait, on a fait pas mal d'annonces dernièrement qui sont, je pense, assez importantes. Mais si tu veux, par exemple, une des batailles numéro un, c'est de travailler sur le combat contre le cyberharcèlement. Et notamment, le cyberharcèlement, ça concerne beaucoup la jeune génération et comment on fait en sorte que cette génération, elle soit protégée.
Est-ce que tu peux juste, pour certains auditeurs, peut-être qui ne sauraient pas spécifiquement ce que ça veut dire, caractériser ce que c'est que potentiellement du cyberharcèlement?
Oui, bah ça va être je poste une photo ou une vidéo et puis tu vas avoir des gens qui vont faire des commentaires négatifs.
Au point où la personne fait, alors j'exagère peut-être en disant une dépression, mais genre vraiment,
oui,
ça,
voilà.
ça, en fait, c'est une crise d'anxiété, d'angoisse, etc.
Exactement, c'est d'avoir honte, d'aller à l'école et d'avoir des gens qui se moquent. Tout ce qui, entre guillemets, existe déjà dans la vie réelle, il n'y a rien de nouveau, mais c'est juste que ce qui existe dans la vie réelle se transpose aujourd'hui peut-être d'une manière un peu différente.
Oui,
dans
et puis
la
être
vie
amplifié
online.
Quand même avec le nombre.
Exactement. Et donc, nous, c'est, on ne veut pas qu'aujourd'hui, on ait une plateforme où ce genre d'acte se manifeste. Donc, ça, c'est notre priorité.
Ce qui est en plus, bon, on peut le dire sans parler de vos concurrents, mais c'est quand même une différenciation, je pense, importante par rapport à Twitter qui est vraiment dans une transparence absolue. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'excès, quand même, on peut le dire, au niveau. Ouais. Au niveau des commentaires.
Non, mais c'est sûr. Et en fait, tu vois, par exemple, ici, on a la chance à Paris d'avoir un centre qui travaille un peu sur l'intelligence artificielle, parce qu'on a juste des ingénieurs incroyables en France. Tu vois, l'intelligence artificielle, ce que ça aide à faire, c'est par exemple, aujourd'hui, quand tu as une personne qui va écrire un commentaire qui est plutôt offensant, automatiquement, proactivement, en fait, cette personne-là va recevoir une alerte en lui disant « Eh, ton message là que tu es en train d'envoyer,
d'accord,
il est hyper offensant, est-ce que tu veux pas te raviser ?»
Ah, tu veux l'envoyer en fait à la personne.
Exactement.
Avant ça, d'accord.
Avant qu'en fait il soit publié et visible pour l'autre personne. Donc l'intelligence artificielle, tu vois, ça c'est une très bonne application de à quoi ça sert.
Oui, c'est de la modération en fait.
Exactement. Et donc on essaye de travailler sur des solutions qui permettent justement de pouvoir enrayer, de pouvoir remettre tout le monde dans une dimension en disant mais enfin, le monde était déjà assez compliqué comme ça, peut-être qu'on peut le rendre plus positif et plus sympa. Et on a lancé cette grande campagne là, depuis la semaine dernière qui s'appelle Cœur sur toi. Je ne sais pas si tu l'as vu.
Ouais, j'ai
et on a fait
parler.
Un événement à Paris qui s'appelle Cœur sur Paris, mais qui met justement en scène le fait que Instagram, aujourd'hui, c'est une plateforme bienveillante. On est une plateforme d'expression et tout le monde doit se sentir libre de venir pour partager son histoire. Qu'on soit quelqu'un, j'allais dire pas quelqu'un lambda, mais tu vois, un utilisateur juste à partager des choses avec ses amis. Ou qu'on soit un créateur de contenu qui a une communauté plutôt importante, ou qu'on soit une marque, parce qu'on a des histoires aussi à raconter et qu'on fait partie de cette communauté. Donc, si tu veux, cette histoire de bienveillance, maintenant, elle est au cœur de tout ce qu'on fait chez Instagram.
Super, hyper clair. Si ça te va, je te propose qu'on enchaîne un petit peu maintenant sur les conseils un peu pratiques, parce qu'on a commencé à parler là maintenant de ce que vous faites chez Instagram. Je te propose de commencer par le début. En toute transparence, j'ai posé la question à mes auditeurs. J'ai pensé la question justement sur Instagram. Je trouvais que c'était un joli pied de nez. J'ai eu énormément de réponses. Donc déjà, la première chose à dire, c'est que clairement, c'est un sujet, je pense, qui passionne les foules.
Ouais.
J'ai essayé de structurer un peu tout ça. Déjà, quelque chose qui me semblait intéressant, c'est une question basique, mais peut-être pas tant que ça. C'est est-ce que, selon toi, tout le monde a intérêt d'être sur Instagram ? J'imagine que tu vas me dire oui. Mais notamment, j'ai eu pas mal de personnes qui me disaient « Moi, je suis une marque B2B ». Est-ce que Instagram, pour vraiment générer du business, pas uniquement de la notoriété, ça peut avoir un intérêt ? Est-ce que vous avez des cas d'école, des best practices ?
Ouais.
Est-ce que tu peux m'en parler ?
Oui, alors, j'ai tendance à dire, ça sert d'être sur Instagram dès que tu as une histoire à raconter. Et pour moi, tout le monde a une histoire à raconter. Après, bien entendu, et je pense que surtout quand tu es un entrepreneur, je pense que la notion de temps, c'est peut-être ce que tu as de plus précieux. On peut parler d'argent, etc. Mais finalement, le temps, dans une journée, tu as tellement de choses à faire en tant qu'entrepreneur que tu ne peux investir ton temps que là où tu sais que tu vas avoir un retour. Donc, bien entendu, le fait d'être sûr d'avoir une audience qui puisse être pertinente pour ton business, c'est important de se poser la question. Donc, est-ce que toutes les marques B2B doivent être sur Instagram ? J'ai pas la réponse, peut-être pas toutes. Peut-être que tu as des audiences qui sont pas là ou qui sont pas en tout cas dans leur utilisation d'Instagram directement dans cet état d'esprit de pouvoir répondre ou être dans un mode de prospection et de pouvoir répondre à de la prospection. En revanche, tu as quand même des marques B2B qui réussissent très bien. Et quand tu prends même des marques comme General Electric, EDF, en fait, ils racontent des histoires qui sont pas forcément... sur leurs produits directement, mais plutôt sur leurs valeurs. Des photos hyper inspirationnelles sur leurs espaces et leurs technologies que nous, peut-être grand public, avons un peu moins accès. Et si toi, tu ne vas pas sur le site internet de ces boîtes-là, donc
oui,
si tu n'es pas proactif là-dessus, en fait, tu ne découvres jamais. Donc, Instagram, ça leur permet d'avoir une présence et de pouvoir raconter une histoire aussi qui est un petit peu différente et peut-être de montrer un pan un peu différent de leur business. Donc, ça, je trouve ça hyper intéressant. Tu as des marques... Moi, j'ai souvent la question sur des marques qui sont peut-être un peu plus des marques de service, tu vois. AXA, c'est un bon exemple.
Ouais.
Peut-être qu'une marque d'assurance, on se dit, attends, est-ce que je devrais suivre une marque d'assurance sur Instagram ? Mais en fait, eux, ils ont choisi l'angle. Alors, ils font plein de choses côté marketing, mais je mets ça de côté parce que c'est plutôt après côté publicitaire et prospection. Mais sur de la présence avec leur compte, Ils vont plutôt être sur comment j'engage avec mes propres employés. AXA, c'est un groupe énorme. Et donc, en fait, leur compte Instagram, c'est comment je reflète la vie de mes employés. Parce qu'ils ont aussi besoin de recruter et de garder leurs employés et de les célébrer. Et donc, sur leur compte Instagram, c'est un magnifique exemple de ce qu'une marque peut faire aussi pour engager leur communauté. Et puis après, tu vas avoir des types de métiers auxquels on ne pense pas, mais qui sont sur Instagram. Je ne sais pas, moi, tu as des plombiers. Tu vois, il y a un compte que j'aime bien parce que je vais souvent à Osgore, mais qui s'appelle Le Plombier Osgore.
D'accord.
Et du coup, tu vois directement le travail de ton plombier. Et en fait, quand tu dois choisir entre l'un ou l'autre, souvent, quand tu as un problème avec un plombier, tu fais une recherche et tu prends peut-être le premier qui sort dans l'annuaire. Bon, et ben là, il y a un côté où je peux voir directement aussi le résultat.
Bien sûr, ça fait une carte de visite, mais de
rien. Exactement, c'est une nouvelle carte de visite, c'est une nouvelle vitrine, et ça, je pense que c'est important. Et enfin, il y a aussi des professions qui sont peut-être un peu plus libérales, mais qui sont assez chouettes à suivre. Et notamment un compte que moi, j'aime bien suivre, qui s'appelle Major Movement. Je ne sais
D'accord.
pas si tu
non,
connais,
connais,
mais
pas.
C'est un kiné. Et en fait, là, tu vas avoir vraiment des cas concrets, des vidéos, en fait, et des cas concrets de mouvements que tu dois faire, si tu as un problème... parce que tu as mal au dos, plein d'exercices. Et donc, du coup, tu as accès directement, si tu veux, à du contenu de quelqu'un qui maîtrise son métier et qui te permet, toi aussi, de faire quelques changements dans ce que tu as l'habitude de faire. Donc, tu n'as pas que des marques qui vendent des produits physiques. Tu as des marques qui vendent des services. Des expériences. Tu as des personnes qui sont des professions libérales et tu as des marques de B2B. Donc, c'est quand même assez large.
L'idée, évidemment, c'est de prioriser par rapport à tout ce qu'on a à faire, comme tu le disais très justement, et la productivité qu'on doit mettre en fait dans son travail. Mais effectivement, si vous avez un contenu à créer qui peut apporter de la valeur à un public, ça peut être tout à fait pertinent d'être sur Instagram. J'ai l'impression que c'est ton message.
Si tu veux, dans cette optique-là, nous aussi, notre ambition, c'est de réduire au maximum les frictions pour que ça soit très facile pour un entrepreneur ou une TPE-PME à pouvoir... se lancer sur Instagram.
Ouais, émerger
rapidement.
Donc,
en gros, t'as pas besoin d'avoir des photos incroyables. T'as ton smartphone, tu peux faire des photos, enfin du contenu, photo ou vidéo, des stories, et en un clic, les poster. Déjà ça, si tu veux, ça t'aide à raconter ton histoire. T'as pas besoin d'avoir des grands moyens aujourd'hui pour avoir une présence sur Instagram. Et tous nos outils sont un peu toujours développés avec ça en tête. Comment on facilite et comment on simplifie l'expérience.
Justement, c'est intéressant que tu parles de ça parce que alors j'ai eu plusieurs fois la question de personnes qui me disaient, et moi-même je l'ai remarqué, Instagram initialement quand ça s'est développé, c'était très esthétique, c'était beaucoup à vocation de photographe, graphiste, etc. Enfin, en tout cas, c'était la niche par laquelle ça a commencé. Aujourd'hui, c'est tellement grand public que maintenant il y a aussi beaucoup de photos qui sont juste pas très jolies dessus et puis parfois c'est des partages juste,
entre amis. Tu as même une nouvelle tendance aussi là-dessus sur le retour à l'authenticité.
Bah voilà, et alors justement, je voulais t'en parler parce que on parlait de bienveillance, l'authenticité, ça fait partie, j'ai l'impression aussi des valeurs. Alors, c'est pas facile quand on est une marque, où est la limite entre l'authenticité et non-authenticité? Enfin, je pense que c'est pas un sujet simple. Mais ma question, c'est est-ce que tu vois justement une nouvelle tendance sur Instagram vers l'authenticité et donc qui est traduite dans les contenus vraiment, à la fois dans les textes, peut-être dans moins de retouches, dans moins d'effets, j'ai l'impression, sur les photos. Et les stories aussi y contribuent, j'imagine. Est-ce que tu peux en parler?
Oui, bien sûr. En fait, la plateforme, depuis 2010, elle a énormément évolué. Si tu veux, on était une plateforme de photos. On a lancé la vidéo, alors je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais plus si c'était en 2012 ou 2013, mais du coup, ça a lancé une nouvelle façon de s'exprimer. On a lancé en 2016 les stories et l'année dernière, on a lancé IGTV. Donc, si tu veux, même nous, dans la façon d'avoir fait évoluer la plateforme, forcément, le storytelling de nos utilisateurs ou des marques a évolué aussi avec ça. La semaine dernière, j'ai fait une conférence sur Instagram et la youth culture, donc Instagram et les jeunes. Et si tu veux, j'avais un point qui était sur avant, on venait sur Instagram pour partager ses photos. Aujourd'hui, on vient sur Instagram pour exprimer qui on est. Et si tu veux, ça, c'est au cœur de ce qui est en train de se passer sur Instagram. Et donc, qui on est, ça peut passer pour certains par du contenu qui est très léché parce qu'ils ont cette passion pour des jolies choses et c'est très bien. Mais aujourd'hui, Instagram, c'est plus seulement ça. Et en fait, tu as de plus en plus de contenu et notamment quand tu prends la Gen Z, qui va partager des images du quotidien qui ne sont pas forcément retouchées et qui vont parler de sujets. C'est surtout ça, je pense que c'est surtout les sujets authentiques. Donc, tu as beaucoup de gens qui aujourd'hui n'ont pas honte de parler d'acné sur Instagram. Et en fait, du coup, tu vas avoir des communautés qui se fédèrent autour de ces personnes-là qui ont ce côté beaucoup plus authentique parce qu'en fait, les gens s'identifient. Et je pense que pour une marque, si j'essaye de traduire ça pour une marque, c'est comment aujourd'hui on arrive à aller regarder ce qui se passe au niveau des communautés pour s'inspirer et s'inspirer un peu de ces tendances pour soi aussi, enfin, en tant que marque, être capable d'avoir un peu le même storytelling ou en tout cas de prendre le meilleur. Et je suis d'accord avec toi, pour une marque, c'est toujours plus compliqué parce que tu peux parler d'authenticité, mais tu as aussi une marque. Et donc,
T'es censé être souvent un peu désirable quand même.
Exactement. Mais du coup, tu as certains outils quand même qui t'aident à le faire. Si tu veux vraiment avoir ta carte de visite qui est nickel, tu peux toujours utiliser ton compte. Mm-hmm. Mais les stories, ouais, ça devrait être
un peu plus authentique.
Exactement. Ça devrait être ta source principale d'authenticité sur Instagram. Ça devrait être un no-brainer, comme j'ai l'habitude de le dire. parce que tu peux partager tes moments du quotidien. Et je pense que les marques qui réussissent aujourd'hui, c'est les marques qui justement arrivent à avoir ce storytelling entre l'identité qu'on a de marque, ses valeurs, ses inspirations, mais aussi qu'est-ce qui se passe dans le réel. Et tu vois, tu as plein de startups qui se sont lancées et qui en stories partagent leurs galères, leurs coups durs, les moments du quotidien qui ne sont pas faciles. Et en fait, c'est ce qui rend, c'est ce qui donne de la proximité en fait, avec ton audience.
Mais c'est ça qui crée une communauté en fait, réellement.
Exactement.
Je comprends. Alors justement, très belle transition parce que je voulais parler de création de communauté qui est la question, je pense, qu'on m'a le plus posée. Alors je sais qu'il n'y a pas de réponse univoque, mais globalement, est-ce que tu aurais des conseils à donner quand même aux auditeurs? Parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent, qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui n'ont pas beaucoup de budget et qui voient Instagram quand même comme un bon moyen d'émerger. Comment réussir le mieux possible avec un budget limité à essayer de créer une communauté réellement et à développer son compte, quoi, tout simplement, et sa visibilité?
Bon, alors, y a pas de recette magique, mais la première chose, c'est déjà, tu crées du contenu. Il y a trop de marques qui me disent « Ah, mais je n'y arrive pas. » Et puis, quand tu vois, ils ont posté une fois par semaine, parfois une fois tous les deux semaines. Il n'y a pas de stories, il n'y a pas de IGTV. En fait, aujourd'hui, tu as une plateforme qui est accessible via ton téléphone, je reviens là-dessus, mais via ton mobile, et qui te permet, en fait, de raconter une histoire très rapidement. En fait, sans que ça te prenne du temps et sans que tu aies besoin non plus de... d'y réfléchir pendant
donc ton message c'est plus
heures.
Allez-y, prenez le risque, même si
en fait,
c'est imparfait,
trop
done is better than perfect.
Exactement.
On y va, on poste et puis on verra.
Exactement.
Quoi.
Je pense qu'il vaut aujourd'hui mieux un peu trop partager que pas assez, parce qu'en fait quand tu partages un peu trop, à la limite tu peux apprendre et voir qu'est-ce qui réagit, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Ne pas partager, dans tous les cas il ne se passe rien. Donc ça, je pense que c'est important. Ensuite, le côté tu vois, quand on parle de stories et peut-être la façon de... Enfin, j'aime bien, moi, les marques qui, parfois... Toi, tu peux avoir une façon holistique de voir et d'utiliser tous les outils d'Instagram, parce que ça aussi, il faut se dire que... Tu vois, la Gen Z, j'aime bien la prendre comme exemple, parce que dès qu'on va lancer une fonctionnalité...
Ils vont tester comme des
fous. C'est la première à tester. Et du coup, c'est la première à s'en saisir et à faire des choses hyper, hyper chouettes. Les marques, j'ai l'impression que c'est toujours un peu les dernières, elles sont un peu frileuses.
Ouais.
Et en fait, tu vois, c'est là où je vois les startups qui ont moins ce côté un peu frileux et qui aiment bien y aller. Donc, mon conseil, c'est que dès qu'on lance une nouvelle fonctionnalité, souvent, c'est parce que c'est très réfléchi aussi de notre côté.
Oui.
En fait, il ne faut pas hésiter. Donc, quand dans les stories, on lance des stickers, les stickers, c'est des espèces de tags où soit tu peux poser, tu peux faire des sondages, soit tu peux poser des questions. C'est toutes ces nouvelles interactions qui vont te permettre juste d'engager avec ta communauté. Donc, ça, hyper important d'y penser.
Et question indiscrète, non, mais que je te pose et tu peux ne pas y répondre, mais dans, entre guillemets, l'algorithme Instagram, qui est un peu le mot... Le mot qui fait rêver, fantasmer, le mot, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, mais on dit souvent que plus il y a d'engagement, plus le compte va être mis en avant, plus il y a d'interaction, plus le compte va être mis en avant. Tu me confirmes qu'a priori, c'est quand même plutôt juste et donc on a intérêt à essayer de créer des contenus qui suscitent de l'engagement.
Oui, alors après, encore une fois, pour que ce contenu-là soit mis en avant, c'est soit tu suis déjà la marque. Donc en fait,
bien sûr.
Il y a deux choses. C'est soit tu essayes d'être encore plus engageante pour les gens qui te suivent déjà, parce qu'en fait, cette communauté-là, tu veux la transformer peut-être en acheteur ou en client. Soit tu veux te faire découvrir. Et je pense que tu as deux stratégies qui se confrontent, si tu veux, ici. Pour engager ta communauté, oui, on va dire que si tu as quelqu'un qui engage avec toi, l'algorithme, entre guillemets, mais l'algorithme est tellement complexe, et puis je pense que, comme tu le dis, c'est tellement fantasmé.
Ouais.
Mais bien entendu, en gros, on va essayer de suggérer le contenu qui est le plus à même à te plaire et à te faire passer du temps de qualité sur la plateforme. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous, c'est que le temps que tu investis en tant qu'utilisateur soit le meilleur temps, et au moment, à partir du moment où tu as décidé de partir de la plateforme parce que tu passes plus du temps de qualité, nous, on est complètement OK avec ça. Donc, c'est un des grands fondements de ce qu'on est en train de faire aussi. Mais donc, l'algorithme, mais si tu veux te faire découvrir, c'est un peu différent. Là, il faut que tu ailles piocher dans d'autres communautés. Donc, pour aller piocher dans d'autres communautés, tu peux faire des collaborations avec d'autres marques. Tu vois, ça, c'est une stratégie où au moins, vous partagez entre deux marques, tu as une collaboration, mais du coup, tu vas poster sur chacun des comptes Instagram et tu te renvoies un peu les communautés des côtés. Donc, ça, c'est une bonne stratégie. Tu peux utiliser des hashtags. Yeah, je pense que c'est un peu aussi la question, est-ce que je mets des hashtags, est-ce que je mets pas des hashtags.
Oui, ça aussi, c'est revenu comme question. Est-ce que ça sert toujours à quelque chose, on ne sait pas, etc. Ouais.
Eh bien, les hashtags, sans en mettre trop ou sans mettre des hashtags qui sont trop génériques, ça sert. Une des raisons principales, c'est que Explore, donc, qui est un des onglets sur Instagram où tu peux découvrir du contenu, tous les jours dans Explore, c'est 200 millions de personnes qui reviennent tous les jours. C'est énorme. Donc en fait, les gens veulent à la fois découvrir du nouveau contenu et faire des recherches. Et quand on fait des recherches, c'est soit on a déjà une idée d'un compte qu'on veut aller chercher, soit on fait des recherches sur des hashtags pour découvrir du contenu. Donc en fait, les hashtags te servent pour être découvert dans cet espace qui explore. Par contre, bien entendu, si tu mets un hashtag love, tu vas être en concurrence avec tellement de choses qui sont génériques, qui sont compliquées. Par contre, par contre, tu es une marque vegan, au lieu de mettre hashtag vegan, tu marques what vegan eat. Là, tu as un hashtag qui est de la communauté vegan. Donc, tu es sûr qu'en fait, tu vas être hyper pertinent et que tu vas ressortir sur ces hashtags-là. Donc, la recette miracle, j'allais dire, c'est en fait un peu de travail parce que ça, malheureusement, il n'y a pas d'outil qui te permet de trouver le hashtag pour la communauté que tu veux piocher. Mais ça serait plutôt d'aller suivre des gens qui font partie un peu de ton audience ou de la communauté dans laquelle tu vas aller taper et d'aller regarder quels sont les hashtags qu'ils utilisent.
Mais tu vois, ce que je trouve génial dans ce que tu dis, c'est qu'au final, ça revient à des basiques marketing qui sont que tu es censé connaître ton client, connaître ta communauté, ta segmentation, et donc savoir que ta communauté, c'est si tu es dans cette communauté vegan, celle qui va suivre ce hashtag spécifiquement-là, et que le hashtag générique vegan ou vegan is great, je ne sais pas quoi, en fait, n'a aucun intérêt et que ce n'est pas ce que tu cherches. Donc, c'est un travail, certes, mais c'est un travail qui est fondamental pour juste en fait connaître ta marque et ton produit, quoi.
Exactement. Donc, en fait, c'est vraiment c'est essentiel si tu veux avoir une stratégie adaptée et essayer de faire grossir ta communauté. Parce que là, on parle de communauté. Donc, c'est pas que des clients. Il y a un côté où quand moi, je décide de suivre une marque, c'est parce qu'elle m'apporte quelque chose. C'est pas juste parce que je suis client de cette marque-là. Je pense qu'on peut être client de beaucoup, beaucoup de marques. Ça veut pas forcément dire qu'on va la suivre sur Instagram. Il faut que sur Instagram, tu apportes quelque chose justement à la communauté. Et donc, c'est pour ça que ton contenu, il est hyper important. Parce que c'est ce qui va faire que tu vas fédérer ta communauté autour de toi. Un autre point qui peut être aussi important, c'est de célébrer ses clients ou les membres de sa communauté. Si tu veux, tu as énormément de marques qui, parce qu'elles engagent très bien avec leur communauté, quand elles achètent un produit, elles n'hésitent pas à poster du contenu.
User-generated content.
Exactement. Et ça, je veux dire, quand tu es une marque, et que sans rien demander, tu as tes clients qui postent des photos de tes produits.
C'est le Graal. C'est incroyable. C'est génial.
C'est un peu le Graal, si tu veux. Ouais. Tu as envie d'avoir des brand ambassadeurs. Alors après,
bien sûr. Bien entendu. Bon, c'est souvent un peu organisé, mais...
Alors, tu peux avoir, parce que tu peux avoir cette stratégie d'influence, mais tu peux aussi avoir une stratégie où, en fait, tu encourages. Et en fait, la manière de l'encourager, c'est le fait que quand tu as une personne qui tag ta marque et qui a fait l'effort de poster soit du contenu dans son fil d'actualité, soit en story, comment tu le repartages. Et ça, tu peux te trouver, si tu veux, ta stratégie pour le repartager. Tu n'es pas forcément obligé de le repartager sur ton feed. Tu peux, mais tu vois, une marque qui le fait très bien, c'est Undies.
Ouais.
Undies, ils vont repartager vraiment les photos, enfin tout leur feed, enfin tout leur compte.
Ce qui n'était pas évident quand ils pensent, parce que Undies, on peut quand même le dire, c'est des sous-vêtements féminins. Donc, on se dirait, est-ce que les femmes ont envie de se mettre à moitié nues sur leur feed?
Exactement.
Et ils ont réussi à générer un user-generated content absolument incroyable avec le hashtag Undies Family.
Exactement.
C'est quand même un très, très bel exemple à suivre.
C'est un super exemple. Et si tu veux, bien entendu, tu as un peu une stratégie d'influence sur une partie, mais tu as aussi une majeure partie du contenu qui est posté qui sont des clientes qui sont allées en magasin acheter leurs produits pour ensuite partager et prendre en photo. Et donc, si tu veux, quand je parlais avec l'équipe d'Undies, elle me dit, mais les filles arrivent avec le compte Instagram en disant, je veux ce produit-là en boutique. Donc, si tu veux, tu sens après le pouvoir de ce que peut faire la communauté. Et sinon, après, tu vas avoir d'autres marques qui vont juste décider de reposter ça en stories. Parce que du coup, en stories, c'est éphémère, mais tu as moyen de célébrer quand même ta communauté. On passe de plus en plus de temps en plus dans stories. Donc si tu veux, c'est une manière hyper facile, non engageante, par rapport à un peu à peut-être la vitrine que tu veux continuer d'avoir sur ton compte.
Ouais, je comprends.
Mais de célébrer cette communauté. Donc ça, il faut le faire parce que du coup, tu vas encourager, tu vas donner un petit peu l'envie à tes clients.
Ouais, de générer eux-mêmes le contenu, quoi.
Et ouais, et puis du coup, d'être célébré aussi sur le compte de ta marque parce que du coup, tu te renvoies toi-même, si tu veux, des gens qui peut-être potentiellement peuvent te suivre. Donc, c'est un win-win.
Complètement. Tu me parlais de... Donc, on a parlé pas mal de stories, on a parlé pas mal de posts. Il y a quand même aussi un... Alors, pareil, peut-être un fantasme, etc. Mais il y a tellement de contenu maintenant sur Instagram que les grosses questions aussi qui revenaient beaucoup quand j'ai interviewé ma communauté, c'était est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore de la place sur Instagram? Est-ce qu'on peut réussir à émerger sur Instagram? On parle du reach, donc le fait que les posts soient peut-être de moins en moins visibles, etc. C'est vrai qu'en fait, quand on y pense, Instagram, en 2010, il y avait peu de monde dessus. Donc, c'est bien normal que les photos qu'on mettait en avant, elles étaient plus vues par la communauté. Maintenant, on est en concurrence avec tellement de monde que c'est plus compliqué. Et en fait, ma question, c'est même pas tellement sur des trucs à mettre en place, sur des recettes, mais c'est plus aujourd'hui, toi, ton sentiment, c'est que oui, il y a évidemment encore une place sur Instagram. Et tu penses que, notamment peut-être sur la partie plus vente, produit, il y aurait un axe à jouer plus que uniquement de la découverte, plus que uniquement de l'inspiration, c'est-à-dire essayer vraiment de rediriger en fait vers un ROI. Est-ce que c'est peut-être ça une stratégie gagnante aujourd'hui sur Instagram ou tu penses complètement que c'est autre chose?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la place sur Instagram et que tu peux construire ta marque maintenant et si tu as trouvé en fait la façon de raconter ton histoire, tu fais d'Ara une communauté. Je prends l'exemple de Justine Hutto qui a lancé la marque Respire, qui que tu as reçue sur le gratin. Mais je trouve que c'est un exemple incroyable. Alors oui, elle a commencé d'abord avec son histoire autour de la course, du running, de se mettre au running. Mais elle n'avait pas de compte Instagram il y a peut-être 3 ans. Alors, on peut dire que c'est une histoire qui a 3 ans. Mais quand même, il y a 3 ans, si tu veux, elle s'est lancée. Elle a d'abord monté cette communauté autour du running.
Sans moyens, sans rien.
Sans être influenceuse à l'époque, si tu veux. C'était... juste elle, son histoire, les coups durs, trouver la motivation et s'entraîner et courir et échouer. Et en fait, je pense que c'est ça, c'est entre le storytelling et le story living, c'est cette façon d'exprimer qui, à mon avis, fait un peu la différence. C'est d'être un petit peu plus dans le vrai ou dans l'authenticité qui te permet de regrouper des personnes. Donc, je pense qu'il y a de la place. Et après, comment elle a réussi à transformer et en tout cas utiliser sa communauté pour lancer sa marque Respire. Mais sa marque Respire, elle a un an. Tu vois, aujourd'hui.
Bien sûr.
Et distribuer chez Monoprix, si tu veux, tous les projets qu'elle est en train de lancer autour de sa marque. Incroyable. Donc, je pense vraiment sincèrement qu'il y a de la place pour tout le monde sur Instagram. Ce qui est vrai et ce qui n'existait pas, c'est que je pense que nous, en tout cas, on est en train de vivre une étape assez importante. Et moi-même, dans mon boulot, c'est un des gros piliers aussi sur lequel je bosse. C'est un petit peu cette brique commerce. C'est le lancement de shopping, de comment on passe de l'inspiration à l'achat. Et une des raisons pour laquelle, en fait, on travaille là-dessus chez Instagram, c'est qu'on est une génération, et notamment quand on observe la génération Z, eux, ils sont nés avec un smartphone dans la main.
Complètement.
Nous, peut-être génération millennials, on a découvert un smartphone à l'âge de 16 ans. Eux, à 16 ans, ils achètent sur leur mobile. Donc, si tu veux, ils ont des attentes sur des modes d'achat qui sont... Enfin, ils sont beaucoup plus exigeants que ce que nous, on a pu l'être. Et quand tu sais que dans un environnement online, il te faut 32 clics pour faire un achat en moyenne...
Je te laisse imaginer en joaillerie.
Tu imagines bien que tu as peut-être plus de la moitié de tes clients qui parfois abandonnent le panier bien parce qu'en fait, l'expérience n'est pas optimale.
Bien sûr.
Donc, basé là-dessus et basé aussi sur finalement l'observation de notre communauté parce que quand le shopping, en fait, le passage à l'acte d'achat n'est pas si nouveau sur Instagram. Il y a 3-4 ans, même quand on n'avait pas ces solutions-là, tu avais déjà les marques qui étaient présentes, 80% de l'audience qui, dans tous les cas, suivent une marque sur Instagram. Et donc, si tu veux, tu voyais déjà des interactions et des commentaires en disant « Ah bah tiens, où est-ce que je peux trouver ce produit ? Dans quelle boutique ? Quelle taille ? Est-ce qu'il vous reste cette couleur ?» Donc, si tu veux, ces conversations-là, elles existaient déjà et tu avais déjà une envie de passer à l'achat. Donc, tu mettais ton petit lien dans ta bio pour rediriger vers ton site, mais ce n'est pas optimal. Donc, notre gros focus sur de l'année dernière et qui continue cette année, bien entendu, ça a été de lancer Shopping. Donc, Shopping, c'est l'opportunité pour une marque qui vend des produits physiques. On n'est pas, pour l'instant, ça ne s'adresse pas aux marques qui ont des services, mais qui vend des produits physiques. C'est de pouvoir taguer ses produits et en un clic, de pouvoir être redirigé vers une page produit. On est toujours sur Instagram.
Parfait.
Mais là, au moins, tu as le prix. Tu as un descriptif du produit, tu peux avoir des photos que toi tu as prises, mais aussi suggérer des photos peut-être de membres de la communauté qui utilisent ces produits-là. et de renvoyer vers ton site internet, si tu en as envie, l'utilisateur pour passer à l'achat. C'est juste une première étape. Ce qu'on est en train d'essayer de tester, c'est justement un environnement qui soit sans friction, zéro friction. C'est de passer de l'inspiration à l'achat directement dans Instagram. Et donc ça, c'est un test qu'on est en train de faire aux États-Unis, qui s'appelle Shopping Checkout, donc le fait de payer directement dans Instagram, et qui te permettra en 3 clics de passer de la découverte d'un produit à l'achat sans que tu sois sorti d'Instagram. Et ça, on pense vraiment que pour les marques, ça va être un game changer, en fait. Ça va aider à faire en sorte que un utilisateur ou un membre de la communauté qui est vraiment inspiré par ta marque et qui a décidé d'acheter, qui puisse le faire sans contrainte.
Ouais, et c'est-à-dire que tu vois, Instagram deviendra peut-être pour certaines marques très très digitales l'unique boutique, en fait. C'est possible?
Bien sûr. Enfin, je pense que même pour certaines marques, sans que ça soit l'unique boutique, je pense que c'est déjà un vecteur très important de business. Tu prends, tu vois, cet été, j'avais une discussion avec Make My Lemonade, donc Lisa Gachet. Quand elle a lancé sa collection cet été, elle lance un maillot de bain, elle met le tag shopping dans la journée même du lancement. Il n'y avait plus de stock, enfin, elle a écoulé tout son stock. Donc en fait, tu sens déjà cet engouement où si tu as fédéré une communauté auprès de ta marque, le lien pour les transformer en acheteurs, c'est facile. Enfin, si tu veux, en tout cas, en tant que marque, aujourd'hui, tu as les outils pour le faire. Donc c'est plutôt comment tu développes cette communauté et que tu utilises bien les outils, mais il n'y a pas tu devrais plus avoir de friction et de contraintes à pouvoir le faire.
Je comprends. Une question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que tu pourrais me donner comme exemple de grandes confusions, de grandes erreurs, d'idées reçues, erronées du coup plutôt, sur Instagram, soit en tant que marque, soit en tant qu'utilisateur, parce qu'aussi il y a évidemment beaucoup de personnes qui utilisent Instagram plus pour leur marque personnelle, on va dire, qui te paraissent un peu pas des évidences justement, mais qui te paraissent des choses en fait mauvaises peut-être pour ces personnes-là dans leur développement de leur communauté et dont tu pourrais me parler.
Il y a deux choses qui me viennent tout de suite en tête. La première, c'est Instagram, c'est de la photo. Je dirais qu'aujourd'hui, Instagram, si vous voulez réussir, c'est de la vidéo. En fait, la vidéo transmet tellement plus de choses que juste une photo. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de côté la photo, mais quand tu regardes, si je sors d'Instagram et que tu regardes la consommation de contenu et comment on consomme du contenu aujourd'hui, la vidéo, elle est au centre de ce qu'on fait. Donc, ça doit être un peu la même chose sur Instagram. Que ça soit sur son compte, que ça soit en stories ou que ça soit avec IGTV. Et IGTV, alors, on a fait un lancement l'année dernière, c'est encore un peu un bébé, tu vois, ça a un an et demi. Mais là, récemment, on vient de faire des grands changements sur la façon dont tu peux promouvoir ton contenu que tu as développé sur IGTV, mais pour qu'il soit inséré dans le fil d'actualité ou dans Explore, qui te permet d'être découvert. Et ça, c'est un sujet important.
Bien sûr. IGTV, juste pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore, peut-être, c'est la version longue, si je résume de façon très basique, des stories. C'est-à-dire qu'on peut poster des vidéos de longueur, je ne sais pas d'ailleurs.
Une heure,
voilà.
Tu peux aller jusqu'à une heure. La différence avec les stories, c'est que c'est du contenu qui reste. Donc, c'est du contenu qui est... c'est comme si tu avais une nouvelle chaîne et une nouvelle ligne éditoriale. Donc, que tu peux utiliser vraiment IGTV en te disant... D'ailleurs, quand tu es en tant que marque, parfois, tu ne veux pas tout mélanger. Tu peux avoir ta grid qui te permet d'avoir un storytelling ou une ligne éditoriale précise. Tes stories qui racontent une autre histoire. Et tu peux utiliser IGTV qui peut t'aider à avoir un autre type de contenu qui te permet d'engager sur et d'aller taper justement dans d'autres communautés. Donc,
par exemple, la grille, quelque chose de très marque, inspirationnelle, valeur, les stories plus authentiques et IGTV qui est par exemple plus tutoriel, plus explicatif, etc.
Okay. Tutoriel, tu peux interviewer, je ne sais pas si tu vois, t'es passionné par d'autres histoires aussi d'entrepreneurs, tu peux les interviewer. Il y a plein de choses que tu peux imaginer et qui aujourd'hui est possible. Et donc la vidéo, je pense que ça c'est un préconçu en disant Instagram c'est de la photo. En fait, aujourd'hui, Instagram, c'est de la vidéo. Et donc, il faut se challenger, aller beaucoup plus loin. Et je pense que les marques, un peu le challenge ou le challenge que j'aimerais leur donner, c'est de se...
Chers auditeurs, si vous êtes à la tête d'une
marque...
d'aller
un peu plus loin là-dessus.
Aller un peu plus loin sur la vidéo. Et tu me disais qu'il y en avait un deuxième.
Ouais, la deuxième, c'est... on parle beaucoup du marketing d'influence.
Ouais.
Je pense que c'est un gros point actuel. Je dirais que l'erreur un peu fréquente du moment, c'est de penser que quand on parle de marketing d'influence... on va taper tout de suite, taper c'est peut-être pas le bon mot, mais on va penser tout de suite aux influenceurs qui ont des très grosses communautés.
Oui, 3 millions de followers, etc.
Exactement. On sent un peu la tendance changer, mais en tout cas, je préfère le mentionner ici.
Ouais.
Je pense que justement, toute marque de tout type, avec tout type de moyens, est capable aussi de faire du marketing d'influence. Et le marketing d'influence, c'est À la fois, on peut très bien avoir une stratégie avec des influenceurs, des créateurs de contenu. Nous, on les appelle les créateurs de contenu parce que c'est plus qu'un influenceur, en fait. C'est des gens dont c'est le métier, parfois, et ils passent beaucoup de temps aussi à créer du contenu. Et puis, ça peut être très bien un média comme une personnalité publique. Donc, ces créateurs de contenu, ils peuvent avoir une grosse communauté. Et pour certaines marques, c'est peut-être bien pour avoir une notoriété importante d'aller faire des partenariats avec ces personnes-là. Mais tu peux aussi, si tu, je reviens à mon histoire de hashtag, si tu veux aller chercher des communautés qui sont peut-être un peu plus niche, dans ce cas-là, il faut aller vers du marketing d'influence plus juste et plus spécifique.
Juste.
Et donc, la micro-influence, d'aller chercher des micro-influenceurs, c'est hyper important aussi. Donc, de bien penser à comment j'adapte ma stratégie. Ce n'est pas une stratégie unilatérale, mais c'est comment j'essaye de trouver la bonne façon de fonctionner entre ce que moi, en tant que marque, je peux faire, comment je travaille avec ces créateurs de contenu, qu'ils soient importants ou plus petits, pour pouvoir mettre en place cette stratégie.
Ce que je retiens vraiment de tout ce que tu me dis quand même, c'est que vraiment cette notion de communauté, elle est absolument cruciale et qu'en fait, comprendre qui est sa communauté, ou peut-être qu'il y en a plusieurs à chaque fois, mais vraiment la déterminer et aller chercher un peu comme un laser spécifiquement les niches où tu peux la trouver, c'est ça en fait un peu la clé du succès.
Hyper important, ouais.
Quelques dernières petites questions. Je voulais parler quand même un petit peu d'indicateurs, donc pour qu'on rentre un tout petit peu dans les détails. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Oui, mais comment est-ce qu'on sait si on lance une opération, si c'est un succès, si c'est pas un succès ? On peut pas avoir vraiment le trafic sur le site, donc on sait pas exactement, etc. » Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, évidemment, et ça dépend énormément des opérations, des objectifs, etc. Mais selon toi, quels sont quelques grands indicateurs quand tu t'occupes en fait d'un compte Instagram, qui sont évidemment cruciaux et qu'il faut quand même monitorer de façon assez régulière?
Oui, alors, déjà, si on parle d'engagement, même si pour la partie business, parfois, j'aime pas trop parler d'engagement parce que je trouve que c'est une métrique qui nous
aujourd'hui,
reflète...
peut-être, à la rigueur, c'est quoi, tu vois, les tendances, voilà, on va dire, sur les indicateurs à suivre.
Mais la chose que je regarderais pour moi, c'est pas le like. À la limite, ça serait plutôt le nombre de commentaires. Si tu dois faire un choix entre... ce que tu dois mesurer quand on parle d'engagement, première chose, c'est le nombre de commentaires, ou si tu es en stories, c'est le nombre de messages que tu reçois. Parce qu'en fait, c'est une métrique qui est beaucoup plus c'est un comportement utilisateur qui est beaucoup plus engageant et qualitatif que seulement le fait de liker quelque chose. Et pareil, la vidéo, c'est OK que les gens... Parce qu'en fait, on me pose aussi souvent la question « Ah, mais quand je fais de la vidéo, j'ai moins de likes. » Mais le like, c'est pas grave. Par contre, quand tu as une personne qui a passé, parce que nous, on compte les vidéos vues. Et quand tu as une vidéo vue, c'est-à-dire qu'un utilisateur a passé minimum 3 secondes. Mais 3 secondes, c'est hyper long. Je le fais en démo.
Oui, par rapport
1, 2, 3. Par rapport à un like,
ouais,
tu as sûrement un engagement et tu as déjà peut-être passé ton message beaucoup plus que d'avoir juste liké une photo. Donc, ces notions d'engagement sur la plateforme, en tout cas, ça, je trouve que c'est important. Après, comme tu le dis, c'est un peu compliqué parce que chaque marque a des objectifs différents, mais tu as quand même des objectifs qui sont très concrets, qui sont les ventes. Alors, si tu n'arrives pas à traquer tes ventes, c'est qu'à un moment donné, tu n'as peut-être pas mis les outils qui sont à ta disposition. Nous, on a un pixel, alors c'est le pixel de Facebook, mais qui aide aussi à traquer les ventes qui viennent d'Instagram. Et donc ça, dans un outil qui est hyper facile à utiliser, tu es capable tout de suite de voir quels sont le nombre de tes ventes. Quand on va lancer Shopping Checkout, et j'espère que ça viendra bientôt pour la France, c'est mon grand espoir. Mais si tu veux, là, tu vas avoir une analyse très facile de ce que Instagram t'apporte pour ton business, puisque tu auras en fait cette brique commerce qui sera intégrée, qui te permettra de voir tout de suite les ventes réalisées sur Instagram. Et ce qu'on est en train de développer aussi dans ce test aux États-Unis, c'est de savoir quand les marques travaillent avec des influenceurs aussi, c'est créateurs de contenu, je suis désolée, avec ces créateurs de contenu, ils vont pouvoir maintenant taguer des produits de la marque avec cet outil-là. Et du coup, la marque va aussi pouvoir mesurer et savoir d'où viennent un peu ces conversions. Et si justement, ce marketing d'influence permet de générer des ventes. Donc, nous aussi, on essaye de faire des progrès sur comment on peut
remonter des indicateurs.
Au maximum les indicateurs. Et après, pour des grandes marques, alors c'est peut-être un peu moins pour les TPE, PME, mais les grandes marques qui travaillent sur leur notoriété, bien entendu, on travaille avec des instituts, des third parties qui vont mesurer l'impact des campagnes, et que ce soit des campagnes de branding, pour mesurer des items de marque, en fait.
Voilà, c'est ça. Le nombre de fois où on a été tagué, etc. La notion, en fait, de mention.
Voilà, la préférence de marque, l'intention d'achat. Donc, tout ça, c'est des indicateurs qui sont qui sont mesurés par des entreprises, des instituts certifiés pour l'industrie. Et donc, du coup, ces campagnes-là aussi sont capables d'être réalisées sur Instagram.
Top. Écoute, j'ai une dernière question hyper pratique, hyper dure, je te préviens tout de suite.
Aïe, aïe, aïe.
C'est, tu te mets dans la peau d'une personne qui veut lancer sa marque, qui, par exemple, mais prenons un exemple, je sais pas, qu'est-ce que t'aimes, le karaté, qui veut lancer,
karaté,
qui veut lancer des cours de karaté, yes. Et qui veut décider de le faire via Instagram. Est-ce que tu peux me décrire quelles sont les premières étapes, quels sont les grands principes que t'appliques, qu'est-ce que tu fais au début? Alors, c'est extrêmement dur, hein. Je t'ai en plus pas prévenu de cette question.
Non, mais c'est pas grave.
Mais juste, voilà, en quelques grandes idées, enfin, tu t'y connais extrêmement bien, t'es vraiment experte dans le domaine, donc qu'est-ce que tu fais? Quels sont vraiment les go-to et au contraire les trucs où tu dis non, mais ça, faut que je fasse attention. Donc, quels sont un peu les grands principes?
Première chose, j'ouvre mon compte, hein, parce qu'il faut, pour pouvoir poster, il faut avoir un compte. Je pense que ça, c'est hyper important. Je pense que je me poserai juste 2 minutes pour savoir ce que j'ai envie de raconter sur ce compte-là.
C'est ça.
Parce que ta ligne éditoriale, finalement, c'est ce qui influence. Alors, après, tu peux changer de ligne éditoriale si tu... Enfin, je pense que justement, c'est un peu la beauté, c'est que il n'y a rien de figé. Et puis, si tu veux revenir en arrière, tu peux effacer. Et puis, si tu veux garder, mais juste changer. Il y a tellement de comptes, en fait, qui ont juste changé la façon
dont ils
s'exprimaient.
Mais c'est important de le dire, t'as raison. C'est pas figé.
C'est pas figé, donc il ne faut pas se mettre de limite. Mais j'essaierai d'imaginer un petit peu ce que j'ai envie de raconter. Parce qu'en fait, ça permet, et surtout pour une marque, de ne pas parler que de produits. Et en fait, je pense que c'est un peu ça le graal d'Instagram, c'est de te dire, si tu arrives en tant que marque et que tu te dis que tous tes posts, c'est la photo de ton kimono.
et de ton futon.
Exactement. Et de ta ceinture sur chaque poste, bah, en fait, c'est un peu ennuyant, si tu veux. Donc, ta communauté, pourquoi elle devrait te suivre? Par contre, si tu es capable de leur parler de tes valeurs, de peut-être mettre en avant des sportifs que toi, t'admires, de les interviewer, si tu es en plus dans une marque qui représente un peu une passion et que tu peux aller engager avec cette communauté, mais tu peux interviewer, tu peux demander si tu peux utiliser telle ou telle photo d'un utilisateur. Enfin, si tu veux, tu as plein de choses que tu peux faire pour que le contenu, finalement, il ne soit pas que sur ton produit ou que ce soit même parfois pas que toi qui le crée.
Donc, imaginez un territoire large où tu peux avoir du contenu inspirant et au contraire, utiliser tout ce qui est inspirant sur ton univers, que ce soit des personnalités, que ce soit des objets, que ce soit des lieux, peu importe à la rigueur.
Exactement. Okay. Et si tu veux, alors, c'est beaucoup vu en ce moment, je ne dis pas que c'est forcément la chose que je ferais directement, mais même parfois de mettre des phrases inspirantes. En fait, c'est juste que au départ, ce qui peut être la difficulté, c'est de se dire... Qu'est-ce que je crée comme contenu? Et en fait, autant en créer plus, je reviens à ça, c'est autant en créer un peu plus et de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, quitte à changer un peu ta ligne éditoriale à un moment donné, que de rester un peu figé et à ne poster qu'une fois par semaine. En fait, tu ne développeras pas ta marque si tu postes une fois par semaine. C'est ce qu'il faut se dire. C'est qu'aujourd'hui, pour se faire découvrir, il faut que tu postes
tous les jours
et
des stories.
Il faut que tu crées du contenu. Donc, ton compte, photos, vidéos, tes stories, si tu peux, IGTV. Si tu veux, t'as pas de limite avec ton smartphone. Aujourd'hui, t'as plus de limite à la création de contenu. Donc, c'est vraiment là-dessus que j'irai. Et comme tu l'as très bien résumé tout à l'heure, c'est un peu de travail aussi perso. Mais c'est si tu identifies tes communautés, tu fais ce travail d'aller voir qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles racontent, d'aller s'inspirer un petit peu pour prendre les grandes thématiques et de pouvoir parler avec elles. Et peut-être la dernière chose que je ferais, c'est que surtout une des choses qu'on voit avec la Gen Z, c'est que c'est une génération no bullshit. Et ça, sur Instagram. Je pense que je serai aussi une marque qui anticipe cette grosse tendance pour être sûre d'être assez authentique et de ne pas raconter n'importe quoi. Parce que ça aussi, je pense qu'il y a un peu une redirection de cette génération sur les marques qu'elles affectionnent particulièrement, sur les marques qui sont beaucoup plus vraies. Et tu vois, une marque qui s'est montée il n'y a pas si longtemps, que j'adore, qui est basée aux US, je ne sais pas si tu connais, c'est la marque Billy.
Non.
C'est une marque de rasoir féminin.
Je ne connais pas du tout.
Et en 100 ans ou 150 ans de l'existence de cette industrie autour du rasage féminin, c'est la première marque qui a fait des publicités où on voit une femme raser des vrais poils. Et en fait, tu te dis, mais comment est-ce possible que ça soit la première marque qui le fait?
C'est vrai qu'on a tous en tête, sans citer de marque, tu vois, la femme qui se dépile la jambe déjà parfaite.
Mais la jambe parfaite, brillante, douce, c'était là, oui. OK, même moi, puis comme ça, je ne sais pas. Non, mais tu vois, c'est assez drôle. Ouais. Et en fait, quand tu vas sur leur compte, donc Billy, c'est B-I-2-L-I-E, le compte est décalé. Ils ont pris, en fait, Donc il y a pas mal de vidéos. Ils font du contenu où ils utilisent des boomerangs. Ils n'hésitent pas à montrer. Je sais pas, alors c'est un peu horrible de raconter ça à l'antenne, j'ai un peu honte maintenant, mais tu vas voir une nana qui se rase les petits poils qui sont sur le haut des doigts de pied.
D'accord.
Le truc que tu ne verrais jamais dans une publicité.
Ouais, bien sûr.
Mais en fait...
C'est pas chez Procter que ça va arriver, quoi.
Exactement. Non. Si tu veux, t'as une façon un peu décalée de raconter des choses de la vraie vie. Et leur message en plus derrière, c'est de dire, si t'as envie de te raser... On est là, on a des rasoirs pour toi et c'est cool. Et en fait, on a tous des poils, donc sens-toi à l'aise. Mais si aussi tu t'assumes avec tes poils et que tu n'as pas envie de te raser, mais body positivity, tu t'assumes. Et nous, on est aussi là pour t'encourager à ne pas te raser. Donc, si tu veux, sur leur compte, tu as plein de nanas qui sont avec des poils. Alors, on n'aime pas, mais je trouve que c'est un exemple flagrant de ce qui est en train de se passer aujourd'hui et qui est un bon exemple juste pour s'inspirer un petit peu de... ce que c'est d'être peut-être un peu plus authentique ou de se baser sur des choses qui sont en train de se transformer et que la génération Z illustre parfaitement. Donc cette génération un peu no bullshit. Voilà, j'irai m'inspirer aussi d'autres comptes
hyper
qui sont assez sympas.
Et au-delà de ça, je rebondis quand même un tout petit peu dessus. Enfin, pour les auditeurs qui sont par exemple des entrepreneurs qui veulent se lancer, il y a tellement de contenu, il y a tellement de belles choses qui existent. Prendre un risque et finalement montrer une femme qui s'épile avec des vrais poils, c'est aussi prendre un risque parce qu'on a peur en fait quand on fait ça. Je pense, eux, à mon avis, quand ils ont eu l'idée, ils se sont dit on est quand même un peu des grands malades. Et au final, ils l'ont fait et ça a cartonné. Et je pense qu'il n'y a quand même pas de secret, c'est se différencier.
Exactement.
Aussi sur Instagram, je pense que c'est clé. C'est un moyen quand même d'émerger.
Ouais, c'est enfin, en tout cas, super exemple à aller voir parce que je pense que c'est aussi en allant regarder ce que certaines marques font bien.
Ouais, bien sûr. Écoute Julie, merci beaucoup pour tous ces conseils, c'était génial. Je te demanderais juste de me dire où est-ce qu'on peut te suivre, te contacter, peut-être sur Instagram, si jamais on veut comprendre qui tu es encore plus.
Alors mon compte sur Instagram, c'est juju_ Pelet. Voilà.
Très bien, je le mettrai dans les notes. Et peut-être t'es sur d'autres supports ou pas tellement?
Ouais, si, sur Facebook notamment, bien entendu, mais LinkedIn, Twitter.
Parfait.
Je suis pas la meilleure à répondre tout de suite, mais je réponds à un moment donné, donc voilà, c'est super.
Génial. Écoute, merci pour ton temps en tout cas.
Merci à toi, merci Pauline.
À bientôt.
Hello à nouveau, et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités peut-être, ou juste me faire un feedback, n'hésitez pas, j'adore ça les feedbacks. Donc foncez directement sur Twitter ou Instagram sous le pseudo Pelaigneau, @PLAIGNEAU. J'essaye de répondre quand on me parle, donc n'hésitez pas. Et comme à chaque fois, vraiment mille merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas, si le podcast vous plaît, que vous appréciez tout ce travail, le plus simple pour m'aider, c'est tout simplement de mettre soit un petit mot doux, soit une note 5 étoiles sur iTunes ou de partager sur vos réseaux sociaux aussi. Ça donne le moral, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, donc n'hésitez pas. Voilà, merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.